En direct 2, unité 3, droit au but. Quel est son crime? Cahier, page 64.
Écoutez les nouvelles suivantes et identifiez le crime commis dans chaque cas. Utilisez le vocabulaire présenté à l'activité, les crimes et leur gravité, à la page 62 de votre cahier. Ensuite, notez un ou deux détails de chaque histoire.
Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette édition de la Semaine en bref. Nous passons le micro à Lise Parot et à Paul Lavigueur pour un compte-rendu des activités criminelles de la semaine.
Merci Manon. Cette semaine a été une semaine peu paisible pour nos citoyens, avec un nombre élevé de crimes dans la région. Lundi soir, sur la rue Denis, un édifice à appartements a failli être complètement détruit par un pyromane. Le feu a duré plusieurs heures et a causé au moins 250 000 $ de dommages. Heureusement, personne n'a été blessé. Un certain Georges Lemieux a été arrêté lorsqu'on l'a trouvé à 300 mètres de la scène du crime, tenant un bidon d'essence à la main.
Non loin de là, tôt mardi matin, une automobiliste ivre a foncé dans une boîte à lettres. Marie-Mathieu revenait d'un party d'anniversaire où elle avait bu plusieurs verres de vin. L'impact l'a rendue inconsciente, mais ses blessures ne sont pas graves.
Une bande de criminels a été arrêtée mardi en possession de plusieurs kilos de cocaïne. Ces malfaisants avaient l'habitude de vendre de la drogue aux élèves des écoles élémentaires. Espérons que cet arrêt mettra fin à ce problème.
Une jeune femme a été prise sur le fait jeudi dernier alors qu'elle sortait du magasin Beau Tricot avec un chandail qu'elle n'avait pas payé. La police a fouillé dans ses sacs et a trouvé de la marchandise volée de 5 autres magasins du quartier.
Jeudi soir, dans le même quartier, un marchand d'équipements stéréophoniques s'est fait voler environ 1 500 $. Le voleur, portant un masque et une tuque noire, a menacé la victime avec un pistolet jusqu'à ce qu'il lui donne tout l'argent qui était dans la caisse. M. Paquette, le propriétaire, a appelé la police quelques minutes après le départ du voleur, mais on n'a pu retrouver aucune trace du voleur.
Un groupe de jeunes du secondaire se sont fait arrêter à l'entrée d'un bar par des policiers déguisés en portiers. Ils essayaient d'entrer dans le bar en montrant de fausses cartes d'identité qui leur donnaient plus de 18 ans. Ces jeunes sont probablement en tête-à-tête avec leurs parents présentement.
Hier, dans un quartier habituellement tranquille, deux ou trois personnes ont peint des slogans sur les murs de l'école secondaire. Plusieurs vitres ont été brisées par des briques et toutes les poubelles ont été renversées. Les responsables ont été vus fuyant la scène du crime. Malheureusement, il faisait très noir et le témoin n'a pas pu les identifier.
Et finalement, un voleur est entré par la fenêtre de la maison de Mme Hélène Lamotte cet après-midi, pendant qu'elle était sortie. Le voleur lui a pris plusieurs bijoux d'une valeur sentimentale, ainsi qu'un téléviseur et une radio. Voilà ce qui met fin à notre bulletin de nouvelles. À Marcel maintenant, pour un aperçu de la météo.
Acte d'accusation, partie A, cahier, page 65.
Écoutez les actes d'accusation suivants et décidez de quel crime il s'agit dans chaque cas.
1.
Vous êtes accusé d'avoir eu en votre possession, le 8 avril 1994, 10 mg de marijuana. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable?
2.
Vous êtes accusé, dans la nuit du 10 au 11 novembre, d'avoir conduit votre voiture sur l'autoroute 10 alors que le taux d'alcool dans votre sang dépassait le taux permis. Comment plaidez-vous? coupable ou non coupable?
Trois.
Vous êtes accusé d'avoir utilisé un revolver pour forcer votre voisin, M. Dupuis, à vous remettre les outils qu'il vous avait empruntés. Cet acte de violence s'est produit à 14 heures le 10 janvier dernier. Comment plaidez-vous à ce chef d'accusation? Coupable ou non coupable?
Quatre.
Vous êtes accusé d'avoir dérobé la banque royale de la rue Labarre à l'aide d'un fusil de chasse dans un midi du 10 juin dernier. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable?
5.
Vous êtes accusé d'être entré sans permission dans la maison de Mme Sirois, 6 au 2 rue de l'Érable. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable?
70 et 71.
Écoutez les décisions suivantes. Remplissez le tableau de l'activité.
Décision numéro 1.
Madame au vol, vous avez été trouvée coupable de vol qualifié. Votre action était non seulement violente et terrorisante pour les employés de la banque, mais aussi pour les nombreux clients présents, dont 2 enfants. Bien que personne n'ait été gravement blessé ou ne soit mort, vos actions ont démontré que vous êtes d'une nature très violente et que vous représentez un danger pour la société. Conséquemment, je vous condamne à 5 ans d'emprisonnement.
Décision numéro 2.
Marc Tranchant, vous avez été trouvé coupable de port d'un couteau de chasse. Il a été prouvé que vous n'avez jamais utilisé ce couteau pour blesser, violenter ou menacer qui que ce soit. Vous avez prétendu que vous n'aviez aucunement l'intention d'utiliser ce couteau comme arme et qu'il ne vous servait qu'à couper des fruits. Il n'est cependant pas clair pourquoi vous portiez un couteau de cette grosseur, qui pourrait être dangereux s'il tombait entre les mains de personnes moins bien intentionnées que vous. Un petit couteau de plastique aurait pu aussi bien faire l'affaire pour couper vos fruits. Étant donné les faits présentés devant moi, je vous condamne à remettre le couteau au poste de police et à faire 2 heures par jour de travaux à votre école pendant 1 mois. Ces travaux seront choisis par la direction de votre école.
Décision numéro 3. Monsieur sans remords, vous avez été trouvé coupable d'avoir tué votre frère. Il a été prouvé par le témoignage de nombreux témoins que vous étiez jaloux de lui depuis votre enfance et que vous l'avez toujours détesté. Vous l'avez tué pour vous venger de son mariage avec la femme que vous aimiez et que vous vouliez vous-même épouser. En conséquence, la femme de votre frère se trouve maintenant seule avec 2 jeunes enfants. À la lumière des faits qui ont été présentés devant moi et de la gravité et de l'horreur de vos actes, je vous trouve coupable de meurtre au premier degré. Je vous condamne à 25 ans d'emprisonnement. 10 ans de votre peine devront avoir été servis avant que vous soyez admissible à une libération sous probation. Décision numéro 4.
Carl, plus âgé, vous avez été trouvé coupable de la fabrication d'une fausse carte d'identité dans le but de vous faire passer pour 18 ans et d'entrer dans les bars et autres établissements où on vend de l'alcool. Vous étiez au courant que ce que vous faisiez était contre la loi. Vous buvez depuis un très jeune âge et votre intoxication vous a conduit à commettre une infraction à la loi. Selon ce que j'ai entendu, je ne suis pas sûr que vous ne soyez pas prêt à recommencer tout de suite. Je vous condamne donc à 100 heures de travaux communautaires et à un séjour de 2 semaines dans un camp pour jeunes avec des problèmes d'alcoolisme.
Plaidoirie, partie A, cahier pages 78 et 79.
Écoutez les plaidoiries suivantes. Premièrement, décidez de quel cas il s'agit. Deuxièmement, décidez dans chaque cas si la plaidoirie est celle de l'avocat ou l'avocate de la défense ou de l'avocat ou l'avocate de la couronne.
Plaidoirie numéro 1.
Votre Honneur, ma cliente est accusée de voies de fait. Il est évident, cependant, que si elle n'avait pas été provoquée, elle n'aurait pas infligé de blessure à la victime. L'acte qui a conduit à la bataille était seulement une réponse de surprise à la soupe chaude répandue sur ma cliente. Les témoins ont été clairs sur ce point. L'animosité que la victime avait pour l'accusé au moment de l'incident pourrait bien avoir été à l'origine de l'incident. Je vous demande donc, Votre Honneur, de trouver ma cliente non coupable de voies de fait.
Plaidoirie numéro 2.
Votre Honneur, mon client est accusé d'homicide. Je soutiens que les coups reçus par la victime sont courants dans la pratique du hockey. Ils sont même inévitables. Plusieurs experts en ont témoigné. Les coups sont dans la nature même du sport, qui est un sport de contact. La victime est décédée parce qu'elle était atteinte d'une maladie. Elle ne serait pas morte si elle avait été en santé. Il est évident que les coups qu'elle a reçus n'étaient pas assez sérieux pour occasionner la mort dans des circonstances normales. Deux médecins ont témoigné à cet effet. Votre Honneur, je vous demande donc d'acquitter mon client d'homicide.
Plaidoirie numéro 3. Votre Honneur, je crois que l'on devrait trouver l'accusé coupable d'introduction par effraction et de vol. Il s'agit ici d'un crime sérieux, même si les dommages n'étaient pas élevés et que la victime a récupéré ses biens. S'il n'est pas puni, l'accusé recommencera sûrement. Il n'a pas l'air de réaliser la gravité de son acte. Il est pourtant assez âgé pour réaliser que ce qu'il a fait est une faute. Je suis d'avis que quiconque commet une faute doit en payer les conséquences. Il faut qu'il tire une leçon de son expérience afin qu'il ne recommence pas. Plaidoirie numéro 4.
Votre Honneur, l'accusé a commis un vol. Il travaillait dans un magasin et son employeur avait une confiance totale en lui. Il le laissait même seul au magasin de temps à autre. Madame la juge, l'accusé a trahi la confiance de son employeur et lui a occasionné des frais considérables en perte de biens et de profits. Le fait que son père était sans emploi et qu'il voulait se faire un peu plus d'argent pour aider sa famille ne devrait pas être considéré comme une excuse. Un crime est un crime, peu importe les motifs. Il faut qu'il soit trouvé coupable et puni en conséquence. S'il n'est pas puni, il continuera toute sa vie à voler ses employeurs et à vivre une vie malhonnête.
Plaidoirie numéro 5.
Votre Honneur, ma cliente est accusée de possession de drogue. De toute évidence, elle a subi des pressions de son groupe d'amis. Il faut se rappeler que les jeunes sont très influençables et qu'ils font souvent des choses qu'ils n'auraient pas faites d'eux-mêmes. Votre Honneur, ma cliente a toujours été une fille et une élève exemplaire du dire de ses parents et de ses professeurs. Elle n'a jamais pris de drogue. Elle en a acheté seulement parce qu'on lui avait dit qu'elle devait en apporter si elle voulait être admise au party. Je vous prie, Monsieur le juge, de considérer cet acte comme un acte d'innocence et d'ignorance et de lui accorder une libération inconditionnelle.
Enquête au labo. Livre, pages 106 et 107.
Écoutez les témoignages faits par différents experts lors de procès criminels. Trouvez quelle technique d'investigation criminelle chacun d'eux a utilisée.
Experte numéro 1.
Comment avez-vous découvert que le passeport du suspect était un faux?
J'ai agrandi des milliers de fois un échantillon du papier et j'ai pu analyser la composition de l'encre. L'encre n'est pas la même que celle utilisée par les autorités fédérales pour la confection des passeports. J'ai aussi analysé la qualité des agrafes. Elles n'étaient pas de la même qualité. Tous les autres détails étaient parfaits en tout point. Personne n'aurait pu dire qu'il s'agissait d'un faux passeport juste en le regardant.
Votre technique est précise à ce point?
Oui, nous pouvons faire la distinction entre un poil d'homme et un poil de bête, savoir si des cheveux ont été arrachés, coupés ou brûlés, connaître la couleur de la voiture dont l'aile a laissé un éclat de peinture sur le casque d'un cycliste, etc.
Expert numéro 2.
Comment avez-vous pu identifier l'accusé?
J'ai analysé une goutte de salive provenant du suspect et je l'ai comparée à un cheveu trouvé sur le corps de la victime. Les séquences de molécules étaient identiques.
Et quelle est la probabilité que deux personnes aient les mêmes séquences de molécules?
1 sur 1 milliard.
Experte numéro 3.
Comment savez-vous que Sylvie Doigté était dans l'appartement qui a été cambriolé?
J'ai reçu un vase au laboratoire pour inspection. Il y avait des marques de doigts dessus qui correspondent en tout point à celles fournies par Mme Doigté.
Expert numéro 4.
Comment avez-vous pu découvrir avec certitude la date du meurtre?
À l'aide des mouches qui se trouvaient sur le cadavre.
Comment des mouches peuvent-elles vous fournir ces indices?
Il y a environ 180 espèces d'insectes qui se nourrissent de cadavres. Et différents insectes arrivent à différents moments. En prélevant ces insectes sur le cadavre, on peut trouver assez précisément la date de la mort.
Experte numéro 5.
Comment la victime a-t-elle pu fournir une description exacte de son agresseur?
J'ai demandé à la victime de définir la forme du visage de son agresseur à l'aide d'un catalogue de formes. Ce catalogue renferme des bandes photographiques représentant des yeux, des nez, etc., de formes et de grosseurs différentes. Après avoir placé toutes les parties du visage dans un cadre, j'ai fait des retouches selon les descriptions de la victime.
Expert numéro 6.
Comment êtes-vous sûr que la victime est bien Marc Mystère?
J'ai réussi à reconstituer son visage à l'aide du crâne trouvé par la police.
Et comment avez-vous fait cela?
J'ai pu déterminer l'âge de la victime en mesurant la largeur de la mâchoire et celle d'une dent. J'ai relevé très précisément l'emplacement et la taille des protubérances à la surface des os sur lesquelles les muscles s'attachent. Cela m'a fourni des indices quant à l'allure de son visage. Il n'était pas ridé, bien qu'il avait 45 ans. J'ai ensuite mesuré l'écartement entre les yeux et le nez, la bouche et les oreilles. J'ai ensuite fait un dessin qui comportait toutes ces données. Puis j'ai utilisé du plâtre pour reconstituer le visage.
Comment avez-vous découvert qu'il était probablement mort d'une surdose de drogue?
La teinte de l'ivoire des dents peut parfois donner des indices sur la cause de la mort.
Fin limier, partie A, cahier pages 85 et 86.
Écoutez les témoignages suivants de 5 experts et identifiez l'illustration qui correspond à chaque scène de crime telle que décrite par l'expert ou l'experte.
Scène numéro 1.
Quand je suis arrivée sur la scène du crime, j'ai remarqué que la porte arrière de la maison était ouverte. Il y avait des empreintes de pas dans la neige.
Scène numéro 2.
En sortant de la voiture, j'ai entendu des cris provenant du deuxième étage de la maison. Toutes les lumières de la maison étaient éteintes.
Scène numéro 3.
Une fois sur les lieux de l'accident, j'ai mesuré la distance entre le corps et la motocyclette. Elle était de 20 mètres. J'ai inspecté la motocyclette. Elle n'était pas endommagée, sauf pour quelques égratignures. J'ai inspecté la victime. Ni ses vêtements, ni son casque ne portaient d'égratignures ou de déchirures. Tout était propre. J'en ai conclu qu'il ne s'agissait probablement pas d'un simple accident ou d'un délit de fuite. Cela m'apparaissait plutôt comme un meurtre. J'ai donc ouvert une enquête.
Scène numéro 4.
Le salon était dans un désordre terrible. Les lampes étaient par terre, les coussins du sofa avaient été ouverts à l'aide d'un couteau, tous les livres de la bibliothèque étaient dispersés un peu partout, les rideaux étaient arrachés. On avait découvert le coffre-fort qui se cachait derrière un tableau, mais il n'avait pas été ouvert. Il ne portait même pas d'empreinte digitale, bien que tous les autres objets en portaient. On n'avait donc pas essayé de l'ouvrir. J'en ai conclu qu'on ne cherchait pas un objet de valeur.
Scène numéro 5.
J'ai vu, en arrivant, que la vitrine du magasin avait été cassée à l'aide d'une grosse pierre. On avait volé tout l'équipement stéréophonique qui s'y trouvait. Rien ne laissait croire que les voleurs s'étaient introduits dans le magasin. Il n'y avait pas d'empreinte digitale. Les voleurs portaient probablement des gants. Aucune trace de pneus ou de pas non plus. Le seul indice que j'avais était un foulard accroché à un morceau de vitre cassé. Il sentait le parfum. J'ai fait analyser ce parfum et on a découvert qu'il s'agissait d'un parfum rare qu'on ne peut pas trouver ici. Il s'agissait là d'un indice important qu'il valait mieux étudier en profondeur. C'est cet indice qui nous a finalement conduit à la coupable.
Enquête difficile, partie A, cahier pages 94 et 95.
Écoutez le compte-rendu d'une détective portant sur un crime qu'elle doit résoudre. Mettez les illustrations des principaux éléments de l'affaire dans l'ordre qu'ils sont présentés.
À mon arrivée au théâtre L'Étoile du Nord, je n'avais pas la moindre idée qu'il s'agirait d'une affaire aussi compliquée. Fabien Prénovost, la vedette principale de la pièce de théâtre « Quand les gars se rencontrent », qui était sur le point d'ouvrir, venait juste de mourir suite à la chute d'un ensemble de projecteurs qui était mystérieusement tombé sur lui pendant la répétition générale. Il y avait de nombreux témoins, dont certains disaient qu'il ne s'agissait pas là d'un accident. Le metteur en scène, qui regardait la répétition assis dans la salle à ce moment-là, a déclaré avoir entendu quelqu'un marcher au-dessus de la scène, juste avant l'accident, et d'avoir levé la tête pour apercevoir une jupe de femme qui disparaissait derrière une trappe. Marie Leduc, l'une des trois célèbres sœurs Leduc qui jouaient dans la pièce, a affirmé qu'elle regardait la répétition derrière la scène en attendant son tour d'entrer en scène quand l'accident est arrivé. Elle a affirmé qu'elle avait vu une main qui tirait sur une corde derrière un rideau de l'autre côté de la scène juste avant l'accident. Considérant les rumeurs qui circulent au sujet des sœurs Leduc, je dois les considérer toutes les trois comme des suspects. En effet, Marie et Mathilde étaient toutes les deux sorties avec Prénovost avant que Prénovost commence à s'intéresser à leur jeune sœur Clotilde. Clotilde avait cependant découvert que Prénovost avait imité sa signature sur un bon nombre de chèques. Marie et Mathilde étaient toutes les deux au théâtre le soir de l'accident. Marie, qui a déclaré avoir été derrière la scène, est apparue sur la scène de l'accident quelques secondes seulement après l'écrasement des projecteurs. On a découvert Mathilde, qui pleurait dans sa loge quelques minutes après l'accident.
Elle a déclaré qu'elle était arrivée au théâtre juste au moment de l'accident, car elle n'entrait en scène que vers la fin de la pièce.
Elle a dit avoir vu l'accident et s'être réfugiée dans sa loge, dans un état de choc. Clotilde était apparemment chez elle ce soir-là, car elle était malade. Une doublure jouait son rôle. Personne n'était avec aucune des sœurs Leduc au moment même de l'accident. Cependant, les sœurs Leduc ne sont pas les seules à avoir une raison de se débarrasser de Prénovost. Il aimait beaucoup jouer aux cartes et devait de l'argent un peu partout en ville, y compris au metteur en scène. On l'a même vu quelques jours auparavant avoir une dispute avec Hervé Legrand, un gangster du coin. J'ai aussi questionné Philippe Ardoise, la doublure de Prénovost. Un jeune acteur ambitieux et plein de talent qui ne s'était pas présenté pour la répétition générale. Il a prétendu s'être blessé à l'épaule en faisant de l'alpinisme cette journée-là. Il a le bras en écharpe depuis ce temps. Des analyses sur les projecteurs ont démontré que les vis qui les retenaient au plafond avaient été desserrées avant que ceux-ci aient été tirés par des cordes ou poussés en bas. Un tournevis a été trouvé sur un des sièges de la première rangée. J'ai remis le tournevis au laboratoire pour analyse, mais il semble avoir été utilisé avec des gants, car il ne porte aucune empreinte digitale. Mon dernier espoir pour résoudre cette énigme est de retracer de qui provient le sang qui a été retrouvé sur l'une des cordes trouvées sur la scène.
Bonne mémoire, cahier page 103.
Écoutez les conversations suivantes et testez votre mémoire. Complétez les phrases qui constituent le résumé de ces conversations.
Conversation numéro 1.
Où se trouve le trésor?
Il se trouve sous 300 mètres d'eau dans l'océan Atlantique, à 10 km au sud-est de la ville de Halifax, en Nouvelle-Écosse.
Conversation numéro 2.
Avez-vous vu qui a commis ce crime?
C'est un homme aux cheveux blonds et aux yeux noirs. Il portait une chemise blanche et un pantalon noir. Je crois qu'il travaille dans un restaurant.
Conversation numéro 3.
Racontez-moi ce qui s'est passé.
Je suis parti du bureau vers 17 heures. Je me suis arrêté au magasin pour acheter un peu de nourriture. Vers 18 heures, je suis arrivé chez moi et j'ai découvert que mon chat avait été kidnappé.
Conversation numéro 4.
Décrivez-moi l'incident.
Il était minuit et quart. Je marchais sur la rue Saint-Jean en direction est. Un grand homme est arrivé à côté de moi. Il a continué à marcher à côté de moi pendant 10 minutes sans me parler. Puis il m'a dit au revoir et il a disparu comme un fantôme.
Devant le tribunal, cahier page 104.
Écoutez les extraits suivants d'un procès et déterminez de quelle partie du procès provient chacun de ces extraits.
1.
Nous déclarons l'accusé coupable.
2.
Nous avons devant nous une femme accusée du meurtre de son mari. Nous savons qu'elle est coupable de ce crime. Nous avons interrogé des voisins et des membres de la famille qui ont témoigné de la nature violente de l'accusée et de menaces qu'elle a souvent faites à son mari. Nous avons aussi interrogé des voisins qui ont eu connaissance des événements entourant le meurtre. Nous avons deux pièces à conviction. Un couteau avec les empreintes de l'accusé et une blouse appartenant à l'accusé sur laquelle se trouve du sang du même type que celle de son défunt mari. Avons-nous besoin d'autres preuves? Honorable membre du jury, je vous demande de trouver l'accusé coupable du meurtre de son mari.
3.
Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable?
Non coupable, votre honneur. 4.
Vous êtes accusé d'avoir tué le 10 avril dernier M. Marc le Malheureux, à qui vous étiez marié depuis 10 ans. Comprenez-vous les charges portées contre vous?
Oui, votre honneur. 5.
Levez la main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité? Dites « je jure ».
Je le jure.
Monsieur, où habitez-vous?
J'habite au 10 rue Lemire, appartement 12.
Où se trouve votre résidence comparativement à celle de l'accusé?
J'habite l'appartement voisin de celui de l'accusé.
Qu'avez-vous entendu vers 18 heures le 10 avril dernier?
Eh bien, j'ai entendu des bruits et une conversation violente. Cela a duré environ 5 minutes. Et puis, rien du tout.
Merci. Je n'ai pas d'autres questions.
Six. Madame la juge, honorable membre du jury, je vous demande de bien analyser les preuves qui ont été présentées devant vous. Demandez-vous si la couronne a réussi à prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé a tué son mari. De toute évidence, cette femme n'a jamais enfreint la loi est une citoyenne respectable et n'est pas d'une nature violente. Personne ne peut tuer sans avoir au préalable commis quelque autre infraction à la loi. Cette femme n'a jamais eu de démêlés avec la police. Elle n'a même jamais commis d'infraction au code de la route. Si elle avait tué son mari, serait-elle restée dans l'appartement et aurait-elle appelé la police? Ne croyez-vous pas qu'elle se serait sauvée? Son crime est tout simplement d'avoir fait confiance au système judiciaire, même si les apparences étaient contre elle. Je vous demande donc de déposer un verdict de non-culpabilité dans cette cause. Monsieur, vous avez dit avoir entendu des bruits et une conversation violente provenant de l'appartement de vos voisins?
C'est bien ça.
Que faisiez-vous à cette heure?
Je regardais la télé.
Diriez-vous que le volume de votre télé était assez élevé?
Le volume de ma télé est toujours assez élevé car j'ai des troubles auditifs.
Vous portez un appareil auditif, c'est bien ça?
C'est exact.
Les bruits que vous avez cru entendre pouvaient donc venir d'un autre appartement ou même d'un téléviseur dans un autre appartement.
Oui, je suppose.
Je n'ai pas d'autres questions, Votre Honneur.
Monsieur, vous avez affirmé que vous portez un appareil auditif pour mieux entendre.
Oui.
Diriez-vous que ce trouble auditif est très sévère?
Non.
Pouvez-vous entendre sans appareil auditif?
Oui.
Pouvez-vous m'entendre maintenant?
Objection, Votre Honneur. Nous ne sommes pas ici pour connaître le dossier médical de ce témoin.
Objection rejetée. Répondez à la question. D'après le verdict qui a été rendu et la gravité du crime, mais compte tenu des circonstances entourant ce crime, je condamne l'accusé à 10 ans d'emprisonnement dans une institution à sécurité minimale. Elle sera éligible à la liberté surveillée après 5 ans d'emprisonnement.
Votre Honneur, la couronne voudrait appeler à la barre l'agent de police Moutard.
Levez la main droite. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité? Dites, je le jure.
Je le jure.
Monsieur l'agent, reconnaissez-vous ce couteau?
Oui. Il s'agit du couteau que j'ai trouvé à l'appartement 10 du 10 rue Lemire, le 10 avril dernier.
Merci.